Le dimanche soir, France Culture vous invite à vivre l'expérience. Un espace sans charte ni format, où l'imaginaire peut s'envoler. Aurélie Charron.
L'expérience commence. C'est une histoire d'amitié, Roger et Albert. Ils sont nés au Caire, en Égypte, dans les années 1930. Ils sont inséparables. Ils sont tous les deux juifs et unis par un même idéal communiste. Jusqu'à ce qu'en 1947, l'un décide de partir en France et de ne jamais revenir. 90 ans plus tard, ils sont toujours amis et Julie Béressy, la fille de celui parti vivre en France, a décidé de réunir leurs voix. Aujourd'hui, de cette génération, il ne reste plus que deux femmes juives au Caire et un seul homme, désormais converti, Albert, l'ami de Roger. C'est donc une histoire d'amitié et l'histoire d'une communauté petit à petit disparue du pays.
Vous vous souvenez des gueules des héros du film « L'aventure, c'est l'aventure » de Lelouch ? Vous prenez le charme et la tendresse de Lino Ventura, la tronche de Charles Gérard et le déhanché d'Aldo Maccione, et ça donne un monsieur de 90 ans qui est là, devant moi. Il danse, en costume, dans une salle polyvalente, sa cravate rouge nouée autour de la tête, comme un tarbouche, les guiboles agiles et la canne virevoltant à la Charlie Chaplin. Face à lui, une assemblée de 150 personnes. Tous debout, ils l'applaudissent. Le monsieur sourit, il est ému, ça se voit, heureux, fier. C'est le doyen de la salle, le patriarche, le toubib. Il a réussi, il a passé le cap des 90. Ce monsieur-là, c'est mon père.
Comme Pépin. Comme Pépin, je serai bref. Merci.
Roger, je t'amène un petit cadeau.
Roger, les gens l'adorent, c'est comme ça, j'y peux rien. Tout au long de sa vie, il a soigné leur corps. Il enfilait ses bottes en caoutchouc et à pied dans la boue de la zone entre Paris et Bagnolet, alors que le périphérique n'existait pas encore. Il allait du passage des Italiens à la rue du Sentier des Ravins, du quartier de la Fosse aux Fraises à la Butte aux Pinsons. Les manouches lui offraient du niclo, une soupe aux hérissons. On était dans les années 60, c'était un bûcheur. Ses valeurs de solidarité et de justice sociale acquises à l'adolescence le guidaient dans son exercice de médecin des pauvres.
Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ?
On est samedi.
C'est une date inoubliable. C'est le 7 septembre 2019, il y a 90 ans exactement, rue Emma Deldine était né votre serviteur, donc ça fait juste 90 printemps. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ?
Et c'était où ?
Au Caire, voilà. Sinon tout va bien. J'espère que Albert, alias Titi, va m'appeler pour me souhaiter mon anniversaire. Voilà. We keep in touch. Born 1929, still going strong.
Et ça fait quoi d'avoir 90 ans ?
Ben, c'est un grand étonnement. Je m'étais fixé des étapes, 75, puis comme ça allait bien, j'ai dit 80, et puis 85. Actuellement, je suis à 90. Donc le futur objectif, pour être réaliste, je dis 92. Voilà. Voilà. Et comme disait l'autre, à 90 ans, je n'ai qu'une ride et je suis assis dessus. Ça vous va ? Vous avez compris ? Allez, le bonjour chez vous. Hein.
Mon père, il a toujours été vieux pour moi. Il m'a eu tard. J'ai grandi avec la peur de le perdre trop tôt. Quand j'étais gamine, je l'accompagnais parfois dans ses visites à domicile. Les portes s'ouvraient sur des intérieurs modestes, on lui faisait un accueil de fête et par ricochet à moi aussi, la fille du toubib. Une patiente m'offrait des pépitos, une autre me glissait une pièce de 5 francs dans la paume et papa plaisantait pour calmer leurs angoisses et leurs maux. Ouvrait sa sacoche en cuir marron, en sortait un stéthoscope, jouait de son abaisse-langue ou de son marteau réflexe. Moi, je me plongeais dans mon magazine PIF et je m'appliquais à construire mon gadget. Par intermittence, des consonances qui m'étaient inconnues venaient m'extraire de ma lecture et, pensive, j'écoutais mon père parler arabe, une langue que je ne comprenais pas et qu'il ne parlait jamais à la maison.
Allô ?
Allô ? Oui ?
Sahetak, Gayeda ? تكلم عربي ولا تفهمش العربي؟ اسكو تا سانتي بون
سؤال سافا ميو
ان شاء الله با تري بيان برافو تي سي كو اجوردي جو فيت مي 90 ans
بون انيفيرسير
فوالا اي سا سو باس دون لانتيميتي يا 150 بيرسون مي سي تو
الو 90 ans
وي 90 ans وي
كل سنه انت طيب
اه وكل سنه انت طيب وكلنا طيبين ولا ماذا هذا انا دخل على الكشكيه بس بونجور شبو ا بيانتو
اوكي
جاريف فارو بروشين افيون ميسرير بيانتو الحمد لله جو في بريباري مون مايو دو بان داكور تشاو بيلو تشاو
اوكي بوفيت.
Je m'imagine dans un avion, direction le Caire, seul. Ça fait 40 ans que j'ai envie d'y aller avec mon père, mais il a toujours refusé d'y retourner. « Mais pourquoi faire? C'est pas intéressant !» répondait-il en roulant les airs avec son accent. « Pour connaître tes racines, pour voir où tu as grandi. Il n'y a plus rien, c'est de la vieille histoire. » Maintenant qu'il a 90 ans, c'est sûr, il n'y retournera jamais. Donc tant pis, j'y vais, seul. Là-bas, j'ai peur d'être submergée par l'émotion et je suis déçue. Ce ne sera pas le même voyage. L'avion atterrit. On descend par le toboggan d'évacuation. Il y a des palmiers sur le tarmac et des dromadaires. On arrive à la police des frontières. Baza port, men fadlak. Passport, please. J'entends l'arabe partout, dans les bouches, sur les panneaux et je comprends rien. C'est curieux, j'entends Dalida chanter en arabe dans les haut-parleurs. Je tends mon passeport au policier égyptien, il le regarde, il prend un marqueur vert fluo, barre mon nom et pointe un doigt menaçant vers moi. Beressi, Beressi, vous êtes sur la liste. Pas de juifs, pas de communistes. Pour vous, un aller simple, sans retour, sans retour. Allô ?
Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui, à 14h07.
Allô, allô ? Où es-tu ? Nous avions un rendez-vous au cimetière. Alors quoi ? Rappelle-moi.
Nous n'irons plus au Caire. Un documentaire de Julie Beressi et François Teste.
On est où là, papa ?
Ben, on est au cimetière de Montparnasse. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on va voir ?
Ben, on va voir la tombe de mes parents. C'est là sur la gauche, mais il faut trouver un passage.
Attends, parce que là, t'as la barrière. Papa, par là plutôt, regarde. Papa, papa.
Non, non, où ?
Là, ici, t'as un chemin, là.
On va sortir de ce dédale.
Ne tombe pas, tiens, Mireille d'Arc.
Donc, comme vous voyez, c'est mix ici. Indifféremment, juifs, catholiques, grecs, orthodoxes. Voilà. La tombe de ma mère, Bella Beressi, 1902-1975. Mon père, Moïse Beressi, 1890-1979, et mon frère à la même date. Et comme vous voyez, les écritures, ça s'efface. Voilà. Il y a des petits cailloux pour commémorer, avec un général à côté, et moi j'aurai des décorations pareilles.
C'est du marbre ?
Oui, marbre noir.
Et voilà. Donc là, dans ce caveau, il y a quatre places couchées.
Il y a quatre places couchées.
Et la quatrième, c'est pour la femme de ton frère.
Voilà, exactement. Et j'ai demandé si mon urne pouvait y être. On ne m'a pas répondu dans les délais. C'est pour ça que j'ai pris l'annexe pour les vieux comme moi à 10 minutes de marche. Voilà. Viens voir. Va. En face, j'ai un copain de classe qui est enterré. Suis-moi. Copain de classe, Joseph Galanet, tu vois, né la même année que moi au lycée français du Caire, 1929, il est maire en 2014. Voilà. Donc Joseph Galanet, Roger Béréchi, avec Titi, Albert Harry, voilà. Trois copains de classe, voilà. Ben voilà, ben tu as tout vu. On va se diriger vers la sortie.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce.
Bon, alors, l'escalier. Escalier Seine. Bonjour. On va aller chez Monsieur Ibrahim. Appartement 802, 8e étage. Ascenseur Seine. C'est où l'ascenseur ?
Juste derrière vous, monsieur, sur votre droite. Vous allez voir tout
à l'heure. Au bout là-bas. D'accord. Réponds.
Allô ?
Nous sommes dans une résidence appart-hôtel dans le 15e arrondissement de Paris. Avec mon père, nous allons retrouver Albert Harrier, alias Titi, alias Adèle Ibrahim. C'est leur rendez-vous annuel.
Bon, on est dans l'ascenseur, on monte. Voilà.
Titi vit au Caire dans le même appartement depuis 85 ans, à deux pas de la place Tahrir. Tous les ans, il vient à Paris et glisse dans ses valises quelques mangues juteuses dont Roger est friand et des pigeons bien charnus farcis au riz.
802.
Roger, Albert, Paris, Le Caire, une amitié, 802. Deux destins. Imaginez deux monsieur âgés avec des cannes telles Stalter et Waldorf, les deux vieilles marionnettes des Muppet Show.
افتح الباب. افتح الباب يا ابن الكلب. خلي بالك كله بالتليفون.
كله متسجل. Tout enregistré.
Nous sommes surveillés.
Les retrouvailles.
Nous nous connaissons depuis le lycée, la dixième du lycée, en 1936. Nous avons fait toutes les classes du lycée, c'était de la dixième jusqu'au bac. Nous avons passé le bac ensemble. À l'époque, il n'y avait que le bac philo et le bac maths. Donc, nous avons fait philo. C'est vieux tout ça.
Quoi la vie au Caire d'un petit garçon dans les années 30-35?
Il y avait la radio, il y avait les cinémas où on allait, il y avait les balades en barque sur le Nil, voilà, où même on s'est baigné dans le Nil, malgré les dangers des énormes tourbillons, on était inconscients, et voilà, on jouait aux billes, voilà, j'ai ramené des tas de billes.
Puis nous étions, c'est très important aussi, nous étions louveteaux. On chantait « Nous sommes les Louveteaux, petits loups de France ».
Voilà.
On partait des bérets.
C'était les éclaireurs de France qui étaient essentiellement laïcs. Donc il y avait de toutes les religions, de toutes les couleurs et de toutes les nationalités.
Et c'était la même chose au lycée. On ne demandait jamais la religion, c'était interdit. On ne savait pas qui était musulman, les musulmans étaient une minorité, qui était chrétien ou qui était juif. Ça, on ne le savait pas.
Sans compter les Grecs orthodoxes et n'oublions pas les Coptes.
Nous avons eu l'enseignement classique français. On apprenait l'anglais et l'arabe comme langue première et deuxième langue. Mais tout était en français. D'ailleurs, notre première leçon d'histoire, ça a été nos ancêtres, les Gaulois, aux yeux bleus.
Et à la maison, vous parliez français ?
Absolument, on ne parlait que le français. Mes parents, quand ils ne voulaient pas que la domesticité écoute, parlaient en judéo-espagnol, no dain del muestro, c'est-à-dire pas devant le personnel, mais nous avons eu une éducation uniquement française. Voilà. Bon, si on ne croyait pas tellement aux histoires de nos ancêtres les Gaulois, par contre, nous avons toujours été du côté de la France, surtout après la guerre de 70, où nous, j'insiste sur le nous, avons perdu l'Alsace-Lorraine. ça te fait rire ?
Non, parce que je me rappelle, bon. Dans les textes qu'on nous enseignait, il y avait la dernière leçon.
Où le maître au tableau, tout le monde pleurait.
Donc nous avons nous aussi pleuré pour l'Alsace-Lorraine.
Roger et Albert naissent au début des années 30 dans l'Égypte prospère et multiculturelle du roi Fouad Ier. Ils grandissent sous le règne de son fils Farouk qui sera le dernier roi d'Égypte. L'Égypte, la mère du monde. Les étrangers affluent vers ses terres, les navires voguent de la Méditerranée à la mer Rouge et déversent des foules de Grecs, d'Italiens, d'Arméniens, de Maltais, de Libanais, de Français. Toutes ces minorités venues travailler et prospérer dans la cité accueillante forment une société halogène d'une mixité culturelle étonnante qui contribuera au développement économique de l'Égypte. Et bien que l'Égypte soit sous influence britannique depuis 1882, la langue parlée au centre du Caire, c'est essentiellement le français, depuis l'expédition militaire et culturelle bonapartiste. Et à cette époque, il règne un climat où les musulmans, les chrétiens et les juifs vivent en bonne entente. Qu'est-ce que c'est d'être juif ? Pas grand-chose. Les gens ne se définissent pas ou peu par la religion.
Mon père était une famille juive qui avait été chassée d'Espagne en 1492 et qui avait atterri en Bulgarie puis en Turquie. Et il avait émigré en Égypte, mais il avait été élevé en Turquie dans une alliance, l'alliance française. Et la famille de ma mère était un mélange. Mon grand-père était russe et ma grand-mère étaient roumaines. Ils avaient échappé au pogrom en Russie et puis ils avaient passé par la Turquie et ils étaient venus en Égypte.
Pour aller dans le sens d'Albert, après la chute de Grenade, plus exactement le 2 janvier 1492, par décret du 31 mars de la même année, Isabelle la catholique fait expulser dans l'Espagne mes ancêtres qui ont refusé d'abjurer. Et c'est là qu'ils ont pris le chemin de l'exil après avoir soigneusement fermé leur maison à clé. Ils n'ont pas mis la clé sous le paillasson, mais ils les ont conservés chez eux. Ils se sont retrouvés, certains en Bulgarie comme ma mère, et mon père s'est retrouvé à Salonique. Voilà, où il a fait ses études à l'Alliance israélite universelle, Et c'est là qu'il parlait parfaitement le français, l'anglais, l'italien, l'arabe, c'est beaucoup plus tard, et un peu d'hébreu. Voilà, un peu d'hébreu.
Je suis dans les sous-sols du journal en ligne Orient 21, avec son directeur Alain Grèche. Né au Caire, il a grandi dans une famille catholique de langue française avec une mère d'origine mi-lituanienne, mi-russe, et un père adoptif copte. Arrivé en France en 1962, il assume son identité multiple, égyptien, arabe, juif, français.
La communauté juive égyptienne, il faudrait dire les communautés, parce qu'il y a des gens d'origine très différente. Il y a des gens qui ont habité l'Égypte tout le temps, qui étaient totalement arabophones, de culture arabe. Il y avait une secte qui est les Karaïtes, qui est une secte juive pas reconnue par le rabbinat, mais qui était importante. Au XIXe siècle, avec l'ouverture du canal de Suez et le développement du coton, l'Égypte est devenue un centre commercial important. Ça a attiré beaucoup de gens de tous les pays, dont des juifs qui se sont installés et qui avaient plus de moyens, évidemment, que les juifs égyptiens. D'ailleurs, qui ont joué un rôle important pour aider les juifs égyptiens, pour l'éducation, etc. Et à partir des années 20-30, on va en retrouver dans toutes les couches de la société. Il y a des chanteuses, actrices comme Leila Mourad, qui sont des grandes actrices. Le cinéma égyptien a été créé par des juifs. Il y a des gens liés au pouvoir. Il y avait des grandes familles qui étaient liées au roi Farouk. Donc c'est une communauté très active sur le plan économique, sur le plan culturel, un peu sur le plan politique. Et ça, je parlais tout à l'heure de la mémoire, la plupart des Égyptiens connaissent ces gens qui ont été des grands acteurs ou actrices, etc. Mais ils ne savent plus qu'ils ont été juifs, quoi.
Quelle était la place de la religion à la maison ?
D'abord, notre éducation était laïque. Je suis jamais allé dans une synagogue. La première fois que je suis allé dans une synagogue, c'était en 2006, pour l'inauguration de la grande synagogue du Caire, et j'étais invité par le ministère des Antiquités. On entendait parler de la religion, mais c'était surtout une religion culinaire. Il y avait des 3 ou 4 fêtes juives qu'on connaissait, et on savait qu'il y avait de très bonnes pâtisseries. Et c'était, pour nous, c'était ça la religion.
Effectivement, la religion se résumait à un seul truc, c'était les fêtes de Pâques, où nous remercions le Très-Haut, paradoxalement, de nous avoir permis, à l'aide de Moïse, de traverser la mer Rouge et de quitter l'Égypte. Et tous les ans, à une fête de famille, on fêtait la sortie d'Égypte, tandis que nous y étions encore, d'où le côté amusant de la chose. Ma judéité, je l'ai apprise de façon fortuite par le baouab de l'immeuble. Le baouab, c'est le gardien.
Le concierge.
Le concierge.
L'équivalent
du concierge. Et ce concierge m'a dit, attention, c'est vous qui avez tué le Christ. Donc j'ai appris ma judaïcité en tant que peuple déicides qui avons tué Jésus-Christ. Je rappelle que sur la croix, est régulièrement marqué « Inri ». Et tous les catholiques que j'ai interrogés ne savent pas ce que « Inri » veut dire. « Inri » veut dire « I »,« Jésus ». « N »,« Nazareth ». « R »,« Rex ». « I »,« Yehudi ». Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Parce que beaucoup de gens oublient que Jésus était juif, un prédicateur juif.
Juif et circoncis.
Oui, juif et circoncis.
Pour moi, Jésus, c'était juste un petit santon que je plaçais avec excitation et précaution entre Marie et Joseph le 25 décembre. Après l'ouverture des cadeaux, c'était mon moment préféré. Moi, j'ai grandi avec une mère bretonne et laïque, un grand-père maternel communiste et résistant, et un père athée et juif. À la maison, on fêtait Noël, mais on n'allumait pas les bougies pour Hanouka, la fête des Lumières, et il n'y avait pas d'extinction des feux le vendredi soir pour Shabbat. J'ai toujours reproché ça à mon père, de ne pas m'avoir transmis cette identité juive et de ne pas m'avoir appris l'arabe. Est-ce qu'aller au Caire m'apporterait des réponses ?
Maxime Rodinson, donc, qui est un grand orientaliste français, qui a écrit des livres remarquables, a écrit un livre qui s'appelle « Peuple juif ou problème juif ». Dans un texte, il dit « Mais qu'est-ce que c'est être juif ?» Il dit « Il y a quatre types de juifs. Il y a les juifs, ceux qui sont de religion juive. Ça, c'est facile à définir. » Et puis, il dit « Il y a les juifs qui sont athées, mais qui ont quand même un sentiment d'appartenance à une communauté qui a été opprimée, qui a été persécutée, et ils ne veulent pas s'en séparer. » Troisièmement, il y a les juifs qui se considèrent pas du tout comme juifs, mais que les autres considèrent comme juifs. Et quatrièmement, il y a les juifs, ceux qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, et qui le sont parce que, dès qu'on commence maintenant, comme j'ai dit, il y a eu récemment toute une série de gens, d'intellectuels français, qui ont découvert qu'ils avaient des grands-parents ou des arrière-grands-parents juifs. Je trouve pas ça très, très bien, mais c'est une réalité, voilà. Donc, voilà cette multitude d'identités juives. Mais on pourrait le dire pour, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui? C'est-à-dire, à part avoir le passeport français, quoi.
Où vous avez appris à parler arabe? Est-ce que vous parliez arabe?
À l'école. Mais à l'école, nous avons appris d'abord l'arabe littéraire, parce qu'il y a l'arabe parlé, dialectal, et il y a l'arabe littéraire. Et il y a beaucoup d'Égyptiens qui ne connaissent pas l'arabe littéraire.
Baladi et le arabe, le nahawi, comment ça? Nahawi.
C'est-à-dire quoi?
Et l'arabe littéraire et l'arabe,
l'arabe parlé.
On pouvait lire, mais on ne savait pas parler. Quand on parlait avec les gens de maison. Pour moi, j'ai commencé à parler l'arabe en 1946 à cause de mon engagement politique. Et quand je suis allé à l'université, donc il fallait parler arabe, j'ai appris à parler arabe. J'avais 16 ans. Mieux vaut tard que jamais.
Donc entre vous, vous parliez donc français.
Oui. Et même quand on a eu un engagement politique, on a commencé, moi et Roger, à nous intéresser au marxisme. On lisait Marx et Lénine et Staline en français. Quand on recrutait quelqu'un, on le recrutait en français.
L'Égypte du roi Farouk a deux visages. Celle des très riches et celle de l'ombre, des très pauvres. Il y a ceux qui fument le narguilé et ceux qui ramassent les mégots, ceux qui ont des serviteurs à leur disposition et ceux qui mendient, écrit Victor Segré, l'auteur d'Un aller sans retour. C'est une Égypte sans démocratie, sans droit, sans liberté. Les gens vivent au jour le jour. C'est dans ce contexte que le destin de Roger et Albert adolescent bascule. Au coin de la place Soliman Pacha, à la librairie du Rond-Point, véritable centre de diffusion des publications de gauche et communistes, ils découvrent Henri Curiel, qui deviendra une grande figure du monde anticolonial. Il se plonge dans la lecture de La Mère de Gorki, qui leur fait entrevoir le marxisme. Frères de cœur, frères d'armes, leur amitié se scelle alors dans les rimes d'Aragon.
Alors, comment ça a commencé votre intérêt pour le marxisme ?
D'abord, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, parce que nous n'avons pas participé à la guerre, mais nous l'avons vécu, parce que l'Égypte était un champ de bataille. Et puis, on aurait, si Rommel avait vaincu la 8e armée britannique, qui sait, peut-être on se serait retrouvé dans des camps. On rit maintenant, mais c'est... Ça aurait pu être une éventualité.
This was El Alamein 4 years ago, the moment of reassertion of Britain's spirit. the very turning point of the war.
Le climat pendant la guerre, c'était un climat évidemment antifasciste. Et puis il y a eu l'Union soviétique. Le rôle de l'Union soviétique dans la guerre qui a été décisif. Et on a découvert qu'il y avait une force. Ils nous ont sauvés quand même. Donc ça, on disait que notre génération était venue au marxisme par les canons de Stalingrad. À l'époque, il y avait plusieurs organisations communistes. Ça, c'est une des maladies du mouvement communiste égyptien. Il y a toujours eu des divisions et ça continue. Donc nous étions dans une organisation qui s'appelait ISRA. Donc, il y avait donc...
L'étincelle.
L'étincelle, oui. Enfin, on disait ISRA, ben en arabe on disait Chagra, l'étincelle.
De l'étincelle jaillit la lumière.
Et tous les samedis, on organisait des conférences. On avait fait des comités. Et, bon, on discutait de tout, de l'avenir des peuples, même scientifiques. Voilà. Bon, c'était pas très méchant. Voilà. Et on faisait des réunions dans les appartements des fêtes où on, c'est-à-dire que ça n'encadrait pas très bien à notre milieu, parce que d'habitude, quand il y avait des fêtes, c'était des fêtes dansantes, danse et pelotage. Et nous, nous étions en dehors de ça. Enfin, on n'était pas des saints, mais nous, on parlait politique.
Nous chantions des chants révolutionnaires. Des chants révolutionnaires. Frères, suivez notre bannière, tachée du sang des innocents.
Et le chant des partisans, oui. Ami entendu.
Voilà. Lorsqu'il y a eu l'attaque traîtresse, évidemment, je plaisante, des nazis contre l'Union soviétique, nous chantions « Lorsque le 22 juin 41, les hordes nazies défiant le destin attaquèrent la patrie socialiste, nous avons crié mort aux fascistes. » Pendant que le thé et le jus d'orange et le jus de Sanacru circulaient avec des biscuits de chez Groppi.
Le mouvement communiste va jouer un rôle important. Il va jouer un rôle important en partie parce que il va comprendre l'importance de la question nationale. En partie grâce à Henri Curiel, je crois, il va y avoir l'idée que la question essentielle en Égypte, c'est pas la révolution sociale, c'est la libération nationale. L'Égypte est en principe, depuis 22, je crois, un pays indépendant, mais en fait, il est sous tutelle britannique. Et c'est une tutelle qui est inacceptable. Pour donner un exemple, il y a... dans l'île de Gezir, qui est au centre, enfin pratiquement aujourd'hui au centre du Caire, un club, le Gezira Sporting Club, qui était fait par les Britanniques. Les Égyptiens n'avaient pas le droit d'y accéder. Quoi. Il y avait une espèce de racisme. En plus, contrairement au colonialisme français, le colonialisme britannique assumait tout à fait que eux, ils ne pensaient pas qu'on pouvait civiliser les indigènes. La France, il y avait cette idée, on peut les civiliser. Mais en France, les Britanniques, ils avaient un mépris profond pour les indigènes. Donc, après 45, il va y avoir 46-47, qui va être le grand mouvement des étudiants et des ouvriers, avec des grèves, un rôle assez important des communistes, pour la libération nationale. Et le mot d'ordre principal, c'est avant l'Angleterre. C'est vraiment ça qui mobilise les gens.
Au terme d'un mandat qui a duré un quart de siècle, l'Angleterre, en la personne de son haut commissaire, le général Sir Alan Cunningham, abandonne la Palestine à son destin. Sur l'aéroport d'Haïfa, le général prend congé des représentants des communautés juives et arabes de la ville, un instant réconcilié pour cet adieu. Pour la population juive de Tel Aviv, un grand rêve se réalise soudain. Une nouvelle nation vient de naître. Et dans une salle exiguë où se pressent les membres de l'Assemblée législative, le Premier ministre de l'État d'Israël, M. David Ben-Gurion, proclame l'indépendance du pays et le déclare ouvert à tous les Israélites du monde.
Il y avait déjà un antisémitisme latent, mais pas du tout virulent. Avec la naissance de l'État d'Israël à concrétiser les choses, et nous sommes devenus juifs parce qu'il y avait des antisémites. Voilà. Et les gens qui descendaient dans la rue en criant « El Yahoud Kelab El Arab », c'est-à-dire les juifs sont les chiens des Arabes. Voilà. Donc là, il y a eu une période où vraiment ça commençait à être dangereux, où nous avions conscience de ne plus faire partie de la communauté nationale. Voilà, d'être considérés comme des étrangers. Les gouvernements montaient la population contre les minorités. Voilà, ça a été le début de tout l'exode. Le premier choc qui a fait que tous les juifs d'Égypte ont dû quitter l'Égypte en 48 et après 49. Alors à ce moment, à cette vague, les gens étaient obligés de quitter. Et pour pouvoir quitter, il fallait qu'ils renoncent à la nationalité égyptienne.
Et à la maison, vous en parliez ?
On commençait à en parler de plus en plus, oui. Voilà. Et envisager l'avenir de façon différente.
Aéroport international du Caire, juillet 1948. Le Constellation de la compagnie TWA quitte la piste, direction Paris. Au hublot, Roger, 18 ans, son bac et son diplôme de PCB, physique, chimie, biologie, en poche. Il part faire ses études de médecine à Montpellier. Au sol, derrière les baies vitrées de l'aéroport, Titi, tout juste 17 ans, regarde son ami d'enfance s'envoler vers l'Europe. Ce qu'ils ne savent encore ni l'un ni l'autre, c'est que pour Roger, cet aller vers la France sera sans retour.
Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin ? Eux qu'on retrouve au soir, désœuvrés incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes.
En 48, Roger est parti continuer ses études, et moi, j'ai continué au Caire.
Je ne me voyais pas seul, bien qu'Égyptien, étranger, dans une université où je serais forcément... La tête de Turc, voilà, ou le seul juif, voilà. C'est moi qui ai décidé, mais j'envisageais quand même de retourner en Égypte.
De temps en temps.
Mais comme entre-temps, moi parti, mon frère et sa femme expulsés, bien qu'égyptiens, et beaucoup plus tard, mes parents renonçant à la nationalité égyptienne, donc il n'était plus question pour moi de retourner en Égypte. Donc je suis devenu français... en 1956, je crois. Voilà.
Quand il part, toi, tu restes.
Non, moi, je suis resté et j'ai continué à la faculté de droit. En 50, je suis devenu licencié en droit. Tu comprends ? Chacun choisit sa voie. On ne peut pas dire on regrette.
Roger est parti. Quelques mois plus tôt, en mai 48, une rafle cueille tous les cadres communistes, dont Henri Curiel. Armand, le grand frère de Roger, membre influent de l'ISCRA, se rend sous la promesse d'être bien traité. Il est incarcéré au camp Duckstep, dans la région du Caire, avec les communistes et les opposants égyptiens, dont les frères musulmans. Un an après, il est expulsé et doit renoncer à sa nationalité égyptienne.
La carte postale, c'est une carte postale que m'envoie le 11 juillet 49, ma mère, et elle m'adresse ça, poste restante à Montpellier. Et dans cette carte postale, ma mère spécifie, Armand et Aimé partiront mercredi 13 juillet, donc 1949, pour Paris. Ils iront chez nos cousins Angèle. Et ces familles Angèle, c'était des cousins éloignés de mon père, donc qui ont passé la guerre cachée, et qui, à la Libération, avaient, rue d'Aboukir, une entreprise d'imperméables. La carte postale est signée Baiser Bella Bérécy. Détail amusant, je t'enverrai les chaussures et le veston bleu et blanc dès que c'est possible.
Le Caire est calme. Après les grands événements des mois derniers, l'Égypte prend un nouveau départ. Notre envoyé spécial nous en donne aujourd'hui ce sensationnel reportage. Le départ de Farouk a laissé vivre.
En 1952, le mouvement des officiers libres mené par le général Naguib renverse une monarchie à bout de souffle et s'empare du pouvoir. Naguib devient le premier président d'Égypte. Il donne sa démission en 1954 au profit de son adjoint, le colonel Gamal Abdel Nasser, qui nationalise d'une main et réprime de l'autre. Pour Albert, resté au Caire, la lutte continue.
En 1953, j'ai été arrêté dans une affaire communiste au temps de Nasser. Et je suis resté 11 ans en prison. J'ai été libéré en 1964, quand il y a eu une évolution dans les relations entre l'Égypte et l'Union soviétique, et Nasser avait décidé de libérer tous les communistes.
Et toi, après avoir été donc libéré en 1964,
quoi tu as décidé ? Je suis resté en Égypte. C'était mon choix, ça a été fini. C'était un choix politique et en même temps, c'est fini, j'étais assimilé. J'aurais pu partir, venir vivre en France, on me le proposait d'ailleurs, mais ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais été condamné à 8 ans de travaux forcés, et à l'expiration de ma peine, on m'avait essayé de faire pression sur moi pour que je quitte le pays. J'avais refusé, c'est une question de principe. J'aurais pu choisir de partir, mais sous la contrainte, non. Et puis je me sentais égyptien, toujours. C'était un choix que j'avais fait. Danton disait toujours, on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Moi, j'étais comme ça, peut-être. Puis par la suite, évidemment, j'ai épousé une musulmane et j'étais obligé de... Parce qu'une musulmane ne peut épouser qu'un musulman. J'étais obligé, enfin, formellement, de me convertir à l'islam. Ça, pour l'épouser, évidemment. On a brisé des tabous quand on s'est marié, mais parce qu'elle aussi, c'était pas accepté aussi.
Et vos enfants se sentent ils se sentent juifs, ils se sentent musulmans
ils... ils se sentent pas, non, ils sont ouverts, ils ont eu plusieurs mariages qui ont, enfin, des liaisons qui ont échoué parce qu'on leur reprochait d'avoir un parent d'origine juive.
Encore aujourd'hui.
Oui, ça continue. C'est... Au fil des guerres, la communauté juive a disparu. Et en Égypte, il ne reste plus personne. C'est malheureux.
À partir de 1948, la communauté juive diminue comme peau de chagrin. En 1949, 15 000 juifs sont expulsés. En 1956, après la nationalisation du canal de Suez, 30 000 juifs quittent le pays. Après 1967 et la guerre des six jours, ils ne sont plus que 7 000.
C'est des drames individuels. Mais je pense réellement qu'il n'y avait pas de solution. On peut reprocher au gouvernement de Nasser, au gouvernement égyptien, au gouvernement arabe de ne pas avoir fait assez, etc. Mais les Juifs étaient dans une situation insupportable. Surtout après 48, où c'est vraiment, il y a une situation de guerre entre l'Égypte et les pays arabes et Israël. La situation des Juifs est insupportable. Et alors, il n'y a plus que des choix individuels. C'est-à-dire... globalement, ils sont appelés à partir. Il n'y avait pas de solution. Ça y est. Ils sont partis d'ailleurs, comme vous savez, en Égypte, ils sont partis dans... Il y a eu différentes vagues. En 56, c'est les Juifs qui ont des passeports français, britanniques et apatrides qui sont expulsés. Mais moi, je veux dire, je suis parti en 62. La plupart de mes copains au lycée français étaient juifs jusqu'en 62-63. 62-63, la vague de départ, c'est essentiellement social. C'est les lois socialistes qui fait que beaucoup de magasins, de choses ont été nationalisées, et donc les gens sont partis. Après, il y avait des réponses individuelles. Il y a la réponse de Titi qui est de se convertir. Il y a la réponse de quelqu'un dont j'étais assez proche, qui était chez Hatta Haroun, qui lui ne se convertit pas. Et il reste pas le dernier, mais l'avant-dernier juif d'Égypte. Mais si je peux faire, je fais beaucoup de critiques à Israël, mais si je peux faire une critique fondamentale au sionisme, en tous les cas pour le monde arabe, c'est d'avoir créé les conditions pour l'expulsion des juifs. Je pense pas que sinon ça serait passé. Non pas pour dire que les juifs et les arabes vivaient toujours en bonne entente, ça dépend des périodes, ça dépend des gouvernements, mais il y avait une société qui était quand même... où on vivait côte à côte, des fois il y avait des tensions, etc. Mais à partir du moment où il s'est posé la question de Palestine, c'est devenu insoluble.
J'appelle Magda Haroun. C'est la présidente de la communauté juive du Caire. J'essaie de la joindre dans son cabinet en plein centre-ville, à deux pas de la synagogue de la rue Hachamaïn. Avocate, elle a repris les activités de son père chez Atta Haroun, qui était une grande figure du parti communiste égyptien et l'un des derniers juifs d'Égypte. Une fois par an, pour Rosh Hashana, le nouvel an juif, Magda ouvre les portes de la synagogue. Et faute d'homme, c'est avec une prière enregistrée qu'elle enterre, les unes après les autres, les dernières femmes de la communauté. Il y a quelques mois, c'était sa mère.
Bonjour Magda, vous m'entendez bien ?
Magda ne sait plus très bien si elle est un dinosaure ou un croque-mort.
L'endroit où vous vous trouvez ?
Oui, bon, à l'instant, je suis dans mon cabinet, au centre-ville, à deux pas du bureau d'Albert Harry. Il y a une petite mosquée, c'est même pas une mosquée officielle, je veux dire. Et on l'entend, le muezzin, comme s'il était dans mon bureau, quoi, assis à côté de moi. Mon père, ça le rendait fou, et moi, quand j'ai l'écoute de téléphone de l'étranger, les gens me disent, ah, excusez-moi, vous êtes à la mosquée en train de prier, je dis non. C'est la mosquée qui est dans mon bureau.
Alors, vous savez que j'hésite à venir vous voir.
Pourquoi ? Vous devriez venir nous voir. Vous êtes, votre papa est né en Égypte. Vous devez connaître cette histoire. Enfin, vous devez voir comment les choses ont évolué avec la fin de la présence des Juifs en Égypte. Les mentalités commencent à changer. Je veux dire, notre présence a été passée sous silence pendant plus d'un demi-siècle. Et ce n'est que récemment que les gens ont commencé à entendre, à savoir... Voilà, il commence. Tu l'entends, Julie ?
On entend bien ?
Je te dis, non, les choses commencent à changer. La jeunesse égyptienne se rend compte... qu'il y avait des juifs, il y avait quelque chose qui s'appelait des juifs en Égypte.
Parce que depuis 1970, il n'y a plus de juifs en Égypte.
Il n'y a pratiquement plus. Il n'y avait que quelques dames, une trentaine de vieilles dames, de vieux monsieur. J'ai enterré depuis 2014, depuis que je suis la présidente. Chaque année, j'enterre 2-3.
Et alors, reste combien aujourd'hui ?
Nous ne sommes que 2. 2 femmes. Moi, j'ai 67 ans. Et l'autre, elle doit avoir dans les 75. Elle se cache, hein. Elle se cache, elle veut que personne ne sache qu'elle est juive. Elle est très paranoïaque. Elle a peur. Moi, ça ne me dérange pas. Tout le monde sait qui je suis, qu'est-ce que je fais. Des fois, on a besoin de ma carte d'identité, il y a écrit ma religion dessus. Je ne m'en cache pas, quoi. Bon, je suis égyptienne avant d'être juive, je veux dire... On n'a jamais été pratiquant dans notre famille.
Et donc, être la seule juive au Caire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ?
Il y a une grande responsabilité qui repose sur mon dos. C'est la mémoire de mes ancêtres, la mémoire de tous ces juifs qui ont vécu en Égypte, qui sont morts en Égypte ou qui ont été expulsés d'Égypte. C'est de raviver cette mémoire. Je ne vais jamais obtenir des excuses. Mais peut-être une reconnaissance. raconter une anecdote. J'étais avec le ministre des Antiquités et je lui disais, je vous donne la permission à ma mort de m'embaumer, de me momifier et de me mettre avec la momie de Ramsès II, le dernier pharaon et la dernière juive d'Égypte. Que les gens viennent me voir au musée. Je me sens nulle part ailleurs chez moi comme je me sens ici. Mais chez moi parce que c'est ma maison. Tu devras venir avec ton papa. Il devrait venir. Il devrait venir.
Je ne sais pas où est la grande allée. Et c'est à gauche. En principe, avec tout ça, il y a de quoi se perdre.
Donc là, on va voir quelle tombe.
On va voir mon caveau, à moi, qui est une annexe de celle de mes parents, vu que c'était complet, soi-disant.
Donc voilà. Tu as déjà acheté ton caveau.
Ah oui, je l'ai acheté déjà depuis 4-5 ans. Je l'ai eu d'occasion. Enfin, d'occasion, c'est une façon de parler. Voilà, vous voyez que c'est calme, arboré. Je ne dirais pas que c'est un cimetière vivant, mais à côté d'autres, c'est... Alors que je me refais un peu... Alors, celle-là.
Où ça ?
Là, voilà. C'est celle-là. La croix n'est pas sur la mienne, mais sur celle d'à côté.
Celle de voilà. Derrière.
Voilà. Donc elle est... Il faut que je la fasse...
Donc là, c'est voilà, quoi ?
Parce que c'est de la pierre. La pierre poreuse... Donc il faut la passer au karcher. Voilà. Donc il y a deux places couchées et autant de personnes qu'on veut qui se font incinérer donc pour les urnes. Voilà.
Donc il y a une place pour moi.
Il y a une place pour toi, il y a une place pour ta sœur, mais elle veut être couchée. Voilà, il y a toute une liste. Et là, il y aura les inscriptions. Moi, c'est un enterrement laïque, donc aucun signe distinctif. Pas de croix, pas d'étoile de David, voilà, rien. Voilà, alors, donc c'est sobre, voilà.
Et qu'est-ce que tu écriras dessus ?
Bah, docteur Roger Bérécy, 1929-2000, 2000, 2-0. Et après, c'est soit 1, soit 2, mais ça, c'est à mon... Vous compléterez, voilà.
Ah, tu veux qu'il y ait la mention docteur ?
Ah oui, ben oui, ça c'est... Je me suis mis d'accord avec Cain... voilà, avec des lettres particulières, c'est moderne, pas de chiffres romains, ni voilà. Et mes médailles, bien entendu.
Donc là, tu es à...
En relief.
Bon, c'est bien, là, c'est calme.
Oui, c'est calme, oui. C'est calme, il n'y a pas d'arbres, voilà, mais enfin, donc... voilà, donc il faut le passer au karcher. Je n'avais pas le droit de mettre ni marbre, ni rien. Donc c'est de la pierre qui est poreuse. Il fallait que je le fasse à l'identique. La dernière personne qui a été ici est morte en 1929. Ah. Donc j'ai dit, très bien, mais vous allez m'enlever tous les os qui traînent et me remettre ça nickel. Elle a dit, pas de problème, monsieur.
Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie, il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs.
Épilogue.
Docteur Roger Bérécy, né le 7 septembre 1929 au Caire, Égypte. Docteur en médecine, thèse du 2 juin 1958. Installé comme généraliste de 1960 en cabinet de groupe, 176 rue Robespierre à Bagnolet en qualité de médecine générale, jusqu'à fin 1997. Ancien combattant d'Algérie,
du 1er mars 1958 au 5 juillet 1960 avec le grade de médecin lieutenant. Carte du combattant numéro 83-29-52. Médaille commémorative du maintien de l'ordre et croix du combattant. Médaille d'argent du mérite civique, 1966. Chevalier dans l'ordre national du mérite, 7 décembre 1970. Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, remis en septembre 90 par M. Pierre Bérégova, ministre d'État. Vice-président de l'Aldo Boxing Club Paris, 75-016, retraité depuis le 1er janvier 98. C'est pas mal, non?
Bon, alors la situation actuelle, mais la situation actuelle est ce qu'elle est, voilà. Donc, c'est le problème de tous les naturalisés qui ont approuvé que n'étant pas né Dupont ou Martin, ont approuvé que eux, ils sont français. Donc, il faut prouver qu'on est mieux que les autres. Voilà, c'est tout. Actuellement, je suis retraité et je vis dans mes souvenirs. Il n'y a rien à rajouter. Bon, allez.
Quoi ? On arrête et puis on fera une autre fois.
Ça dépend, qu'est-ce que tu veux encore comme question ? Il est 1 heure déjà, ça suffit.
Ouais, bah, je reviendrai.
Nous n'irons plus au Caire, à Pythéas et Khéops, et à ma sœur Sandrine. Avec mon père, Roger, son ami d'enfance Albert, dit Titi, avec également Alain Grèche, directeur du journal en ligne Orient 21, et Magda Haroun, la présidente de la communauté juive du Caire. Ce documentaire a reçu le soutien de Brouillon d'un rêve de la SCAM et du dispositif La Culture avec la copie privée. Merci à Jérémy Dress, auteur de la bande dessinée Si je t'oublie, Alexandrie. Merci à Fabienne, à Nejma et à Francesco. Discothèque de Radio France, Antoine Vuilloz. Attaché de production, Inès Duperron. Coordination, Aurélie Charron. Un documentaire de Julie Béressy et François Teste.